Bonjour, je m'appelle Stanislas Frankiel, je suis maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université d'Artois, membre de l'atelier Sherpa. L'atelier Sherpa, c'est un laboratoire de recherche qui adhère au laboratoire régional UREPS, spécialisé pardon, sur les vulnérabilités sportives. Ce laboratoire a été créé en 2002 par le sociologue William Nuitens et aujourd'hui, on est à peu près une quarantaine de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de docteurs et de doctorants, hommes et femmes bien sûr. Nous sommes un laboratoire assez dynamique dans le sens où nous avons beaucoup de contrats avec des collectivités, des associations, des mairies, des régions. Et donc on essaye de faire une recherche qui est au plus près des attentes aussi des citoyens. Pour ma part, je travaille beaucoup sur la thématique, autour de la thématique pardon, de l'immigration sportive depuis plus de 20 ans, notamment sous l'angle des sportifs de haut niveau, dans une perspective coloniale et post-coloniale. Et aujourd'hui, je suis très impliqué dans l'organisation de la Fête de la Science, ici, dans notre UFR STAPS, Chemin du Marquage à Liévin, où on a organisé une exposition photo, on a organisé un café des sciences ouvert à tous les étudiants et aussi aux extérieurs, et une série de quatre conférences débats avec des enseignants-chercheurs, avec des doctorants, des docteurs, sur des thématiques aussi variées que la maladie d'Alzheimer, que sport et radicalisation, que la fuite des sportifs, vous savez, la fuite des sportifs de haut niveau lors des compétitions en Occident, notamment les Africains qui ne reviennent pas au pays, nous avons un doctorant qui travaille dessus, et enfin, sport et Première Guerre mondiale, les trajectoires de champions méconnus qui sont passés par la rageoire ou qui sont tombés par Arras, pardon, entre 1914 et 1918, dans le cadre d'un contrat financé par l'Office des sports de la ville d'Arras. Je vais donner maintenant la parole à mes collègues Thibaut Del Favero, docteur en STAPS, et Gianni Marassa, qui finit sa thèse de doctorat, qui sont des éléments forts de notre laboratoire.
Voilà, donc deux personnes qui sont chercheurs dans cette université d'Artois. Est-ce que vous avez entre vous des complémentarités, des points communs, ou travaillez sur le même projet? Comment ça se passe?
Oui, on a des complémentarités. Moi, je travaille sur la question de la radicalisation dans le sport. Thibaut travaille plus sur la question des violences. Deux sujets qui sont différents, mais qui, d'un point de vue des concepts et des approches théoriques en sociologie, sont plutôt similaires. Et c'est ce qui fait aussi qu'on travaille ensemble sur certains projets en dehors de notre thèse également. Et c'est la raison aussi pour laquelle on va communiquer ensemble sur cette conférence ce soir. Sur cette thématique-là du sport, de la radicalité et des violences dans le sport.
Est-ce que dans ce domaine-là, vous avez une base documentaire importante ou vous lisez la presse?
Je vais répondre pour ma part et je laisserai Thibaut du coup répondre pour lui. Il y a les deux, il y a plusieurs types de matériaux, à la fois un traitement des discours médiatiques, des discours politiques, mais également un traitement évidemment de la bibliographie scientifique sur ces questions-là et des enquêtes de terrain.
Non, après, vous dire simplement effectivement qu'on considère toute forme de source dans le cadre de nos travaux de recherche. La source journalistique en fait partie. Alors, moi, ce qui est intéressant dans mon travail sur les violences, c'est d'intégrer, disons, la façon dont on se représente les phénomènes à travers les faits divers, et après de les questionner dans leur réalité empirique, hein, qui est un peu plus complexe dans le cadre justement de mes enquêtes de sociologie.
Est-ce que vous avez accès à des personnes que vous pouvez questionner, soit en tant qu'acteur, soit en tant que témoin?
Alors, bien sûr, on tisse des liens avec le mouvement sportif parce que ce sont des questions, celles de violence et de radicalisation, qui interpellent, qui sont parfois un peu brûlantes, mais qui néanmoins sont sujets à débat au sein des fédérations et des instances déconcentrées. Donc ouais, on tisse des liens avec les ligues, les districts, les comités départementaux, ce qui nous permet d'avoir des interlocuteurs privilégiés, parfois directement concernés par les phénomènes. En ce qui me concerne, je pense surtout aux présidents des commissions de discipline, par exemple. Parfois aussi, et c'est mon cas aussi dans le cadre des violences, la FFF. J'ai pu travailler un petit peu avec elle et notamment son bureau des actions citoyennes qui dispose d'un observatoire qui fait le recensement des violences et des incivilités dans le football amateur. Donc tout ça constitue des bases de données intéressantes. Après, en fonction des besoins de l'enquête et de l'orientation de la recherche, on va convoquer, solliciter différents profils d'enquêter, d'interviewer. Dans mon cas, effectivement, j'ai parlé des présidents de commissions de discipline, mais ça peut être aussi les dirigeants des clubs, les éducateurs, les présidents de clubs. Ça peut être les licenciés directement. Pas ceux qui sont forcément concernés par les violences, mais en tout cas des gens qui sont dans les clubs qui manifestement apparaissent comme les plus concernés par ces violences. Et puis on peut aussi interroger directement les auteurs des faits. Ce que moi j'ai pu faire dans le cadre de ma recherche, je voulais interroger directement le contrevenant, la personne qui est passée à l'acte, pour essayer justement de comprendre de son point de vue quelles ont été les conditions qui ont fait que cette personne a eu recours au comportement violent sur les terrains du dimanche.
Cette recherche, elle est réalisée ici, dans cette université d'Artois, depuis combien de temps ?
Alors tout dépend en fait des thématiques qui sont abordées. Dans le cadre de Gianni et Thibault, ça fait à peu près 4 ou 5 ans que vous avez démarré et fini votre thèse de doctorat. Plus globalement, la question des vulnérabilités et des violences dans le sport anime nos réflexions depuis plus de 20 ans. Pour ma part, je suis arrivé ici dans le laboratoire et recruté comme maître de conférence en 2015. Et effectivement, ce qui est très important, c'est que les thématiques se sont ouvertes à différents sports, à différents publics. Il y a eu une ouverture aussi au sport santé. Il y a eu une ouverture aussi aux thématiques liées aux thématiques sanitaires. Il y a eu aussi une internationalisation du laboratoire avec l'arrivée de professeurs hongrois, avec l'arrivée de jeunes chercheurs camerounais, avec le renforcement dans notre équipe d'un psychologue béninois. Donc forcément, on est très dynamique, on est très porté sur de nouveaux publics, à la fois très ancré localement, notamment au niveau de la région et du bassin minier, mais aussi très ouvert à de nouvelles perspectives internationales.
Donc le sport de haut niveau et tout ce qui est compétition, là on pourra peut-être parler des Jeux Olympiques pour l'an prochain, hein, nécessite d'avoir un recrutement. Et ce recrutement, il se fait parfois, j'allais dire peut-être souvent, à vous de nous dire, hein, en faisant appel à des personnes étrangères. Donc on peut dire des immigrés qui viennent pour une circonstance particulière. Certains sont peut-être même nationalisés pour l'occasion.
Bon, j'ai beaucoup travaillé la question des binationaux, notamment algériens, puisque j'y ai consacré ma thèse de doctorat et mon troisième ouvrage. En tout cas, là, tout à l'heure, je voulais vraiment vous parler de notre milieu au niveau de la recherche, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le cadre de la mondialisation du sport, nous assistons aussi à une mondialisation de la recherche et qu'aujourd'hui, en France, près de la moitié des thésards sur 10 sont des étrangers. C'est-à-dire qu'il faut aussi noter que on n'est pas épargné par une crise du recrutement, un problème de relève, qui va faire des thèses de doctorat aujourd'hui. On arrive encore à en trouver, mais c'est de plus en plus difficile. Et donc maintenant, on tisse des partenariats avec des laboratoires étrangers. Je vous ai parlé de la Hongrie, du Cameroun. On fait appel de plus en plus à des visiting professeurs, c'est-à-dire des professeurs invités qui vont venir. On en a eu d'Algérie, on va en avoir un du Cameroun, on en a eu d'autres pays. Et donc vous voyez, on essaye vraiment d'être dans une perspective d'ouverture et aussi de confrontation scientifique, parce que rien de pire que l'endogamie scientifique, où on répéterait tous les mêmes choses, où on serait tous en train de faire la même chose avec les mêmes auteurs, les mêmes terrains d'études, et finalement, en fait, on tournerait en rond, et ça serait quasiment incestueux. Donc notre but, c'est vraiment de pas forcément tout le temps être d'accord, d'où l'organisation à Liévin, dans notre université, d'un nombre conséquent de séminaires, entre 5 et 10 par an, où les jeunes chercheurs, comme les chercheurs aguerris, comme l'invitation de professeurs extérieurs, viennent présenter leurs recherches. Et c'est ce qui nous maintient un certain dynamisme, tout comme l'invitation désormais de jeunes étudiants de première, deuxième et troisième année, voire de master, qui veulent aussi se lancer dans la recherche.
Alors, au niveau des doctorants, on peut dire peut-être que ces doctorants en France sont payés relativement faiblement pour vivre correctement. Peut-être qu'on peut donner la parole.
Alors, je pense que la situation du thésard, elle est à géométrie variable en fonction des situations individuelles. D'accord ? Il est possible pour un thésard, et parfois même obligatoire, tout dépend des champs disciplinaires dans lesquels le prétendant veut faire sa thèse, d'obtenir un financement. Alors ce financement, il est de nature diverse, on ne va pas le détailler, mais ça permet aux jeunes chercheurs de pouvoir subvenir à ses besoins durant 3 ans de thèse. Hein. Il y a d'autres modes de financement qui sont plutôt liés, par exemple, au monde du privé. Et là, c'est les thèses avec les entreprises qu'on appelle des chiffres. Et puis après, il y a ceux qui n'ont rien. Donc ça concerne principalement les jeunes docteurs ou alors les aspirants doctorants qui travaillent plutôt les sciences humaines et sociales. Hein, dans le monde des sciences de la vie, les sciences dures, le financement est obligatoire. Si pas de financement, quel qu'il soit, pas de thèse. En sciences humaines et sociales, c'est un peu plus souple. Mais du coup, ça amène certains jeunes chercheurs à parfois démarrer une thèse sans financement et être dans des conditions qui sont délétères parce que précaires. Donc là, dans ces cas-là, il y a plusieurs filons pour s'en sortir. Travailler à côté, obtenir dans son université des enseignements, des vacations, un contrat d'attaché temporaire d'enseignement, du contractuel, des postes de contractuel. Vous voyez, qui permettent au thésard de faire sa thèse tout en travaillant à côté et donc de subvenir à ses besoins. Mais les situations sont diverses.
Voilà, donc est-ce que vous vous situez à la frontière de plusieurs disciplines ? On parlait de sciences économiques, sociales, sciences humaines et sociales. Est-ce que vous êtes à la croisée de plusieurs grands champs de recherche ?
Bien sûr, on est vraiment dans une optique de croiser les sciences sociales, notamment histoire et sociologie, hein, pour ma part, sont des disciplines qui dialoguent, puisqu'on ne peut pas voir un phénomène sans s'intéresser à sa genèse. Et le but aussi de la sociologie, c'est de montrer qu'il y a des structures et des fonctionnements, et l'histoire vraiment peut s'y intéresser. Donc on n'est pas du tout dans une approche sectaire, comme j'ai pu le rencontrer parfois dans certaines universités. Là, au contraire, on essaie de faire dialoguer les disciplines. Ainsi, on a des thésards qui travaillent en même temps sur la sociologie et en même temps sur la physiologie. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc les enjeux sanitaires, les enjeux sociaux, et en même temps une approche sanitaire et de physio. Donc on a quand même une certaine liberté académique. Et je crois que les doctorants et les docteurs ici s'en rendent bien compte. On veille vraiment à maintenir des relations assez horizontales entre nous. Et ça, c'est important pour l'épanouissement aussi des plus jeunes chercheurs.
Donc, dans ce labo, il y a beaucoup de jeunes chercheurs. Est-ce que justement leur regard sur la société, leur compréhension est très différente de personnes plus anciennes qui auraient des fonctions de ce type-là depuis 30, 40 ans ?
Les regards d'un chercheur à un autre sont systématiquement différents, mais sont toujours contraints aussi par la démarche scientifique dans laquelle ils s'inscrivent. Après, bien sûr, on ne peut pas se passer aussi des années d'expérience et de mentoring que constituent finalement nos directeurs respectifs. Mais l'instauration du dialogue entre les disciplines et d'une certaine forme de pluridisciplinarité aussi au sein de certaines thèses, me concernant, non, mais ça concerne d'autres doctorants de laboratoire, ça apporte aussi de nouvelles discussions, de nouveaux échanges sur des problématiques qui étaient traitées aussi différemment et qui permettent d'avoir un regard un peu novateur sur certaines choses désormais, oui.
Donc vos recherches sont utiles aussi pour, par exemple, je vais dire des politiques, hein, pour élaborer des politiques tout au moins. Qu'est-ce que vous apportez de manière très pratique qui permettrait d'avoir une vraie réflexion sur la société, des solutions à des problèmes? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une crise, mais il y a des problèmes un peu partout tout le temps, mais est-ce que vous sentez des problèmes plus aigus que d'autres et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme idée sinon solution?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait de consensus à ce niveau-là sur finalement la manière dont la science doit être impliquée sur les différents changements de la société, etc. Moi, j'ai une vision assez personnelle de la chose qui consiste à finalement replacer la science dans l'étude de quelque chose et sans forcément basculer dans le trop prescriptif ni dans le trop de propositions qui permettraient des améliorations et qui relèvent plutôt de champs politique. Donc, lorsque je travaille, par exemple, avec des organismes extérieurs à l'université, sous forme de contrats, etc., plus ou moins de longue durée, à plus ou moins grand montant, etc., effectivement, derrière ces contrats-là, il y a un objectif de la science au service de la société. Et la plus-value qu'on apporte en tant que chercheur, c'est finalement l'explication d'un phénomène qui est parfois mal compris ou compris un peu de travers par certains individus. Et après, libre à ces individus de se nourrir en fait de nos explications, de sorte à pouvoir ensuite, orienter un petit peu les directions dans lesquelles ils veulent placer leurs futures actions en tant qu'opérationnels, en tant que politiques.
Voilà, donc si je comprends bien, il y a une vision simpliste des phénomènes de société, puis il y a la réflexion, la recherche, la mise en commun aussi de connaissances qui permettent d'aller plus loin dans l'analyse et sans doute l'élaboration de solutions.
Alors oui, notre démarche de recherche, elle s'inscrit véritablement dans une logique assez simple. Hein. Fondamentalement, c'est de produire des connaissances scientifiques certifiées. On produit un savoir parce qu'on utilise une méthodologie de recherche, on a une certaine façon de travailler, on essaye de regarder le plus objectivement le social en tant que sociologue, et voilà, on produit des savoirs sur ce social, quel qu'il soit. Donc, d'une certaine façon, les discours qu'on produit ne doivent pas être confondus avec d'autres formes de discours, celui que tout à chacun peut avoir le dimanche midi au repas de famille, qui est plutôt un discours de sens commun. On a tous des représentations sur n'importe quel type de sujet, d'actualité ou que sais-je. Voilà, ce sont des représentations de sens commun. On se fait tous une idée de quelqu'un ou de quelque chose. La sociologie et la science en général a la vocation à produire des connaissances certifiées qui permettent d'expliquer ben justement comment ça se fait que ces choses se passent comme ça, ou qu'elles sont comme ça, ou pas. Vous voyez ?
Alors, dans les familles, souvent, beaucoup de gens sont en opposition. Hein. Quand à table, ça peut être chaud parfois, parce que chacun a sa vision. Est-ce que vous avez plutôt, vous, entre vous, des consensus qui se dégagent sur quel sujet, par exemple ?
Des consensus, effectivement, on en a. Après, c'est pas systématique. C'est quand même plus intéressant pour nous, mais ça, je pense que c'est une déformation professionnelle du scientifique, de débattre. Et ici, au labo, on a des temps de débat. Il y a les séminaires qui sont prévus pour ça. Il y a aussi des temps qui sont consacrés à la présentation, à la discussion des travaux des jeunes chercheurs. C'est toujours intéressant à ce moment-là, vous voyez, d'avoir le retour aussi de chercheurs plus aguerris, plus expérimentés. On organise des événements, des conférences, des journées d'études, des colloques, des symposiums qui permettent justement de confronter différents points de vue et parfois aussi différentes façons de faire de la recherche. Et tout ça doit servir la stimulation intellectuelle. C'est essentiel. On n'est pas là pour se déchirer, pour se battre. On est là vraiment pour échanger, discuter, vraiment dans une logique d'épanouissement intellectuel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Donc là, on a bien compris votre angle par rapport à la recherche. Par rapport aux étudiants qui viennent ici, qu'est-ce que vous leur apportez en réflexion, j'imagine, en travail aussi, pour aller vers des objectifs que vous vous fixez? Comment vous appréhendez ces étudiants qui sont jeunes et qui peut-être ont aussi une certaine forme de connaissance des problématiques que vous traitez?
Il me semble important de les éveiller à la formation, à un esprit critique, pour une émancipation intellectuelle. C'est très important. On est à l'université, on n'est pas dans une école de journalisme. On est à l'université, on n'est pas en train de servir la soupe politique. Donc ce qui va se passer, c'est que dès la première année, ils commencent à étudier des auteurs clés importants, des sociologues, des historiens, dans le cadre de ma discipline. On va leur faire faire des dossiers d'histoire du sport, où ils vont devoir aller rencontrer des gens, où ils vont devoir lire, où ils vont devoir emprunter des ouvrages, consulter des sites internet, consulter surtout des bases de données pour obtenir des articles scientifiques, bien faire la différence entre ce qu'est le cadre théorique, les ouvrages scientifiques de référence, les articles scientifiques de référence et les sources, les traces du passé, sources écrites, orales, audiovisuelles, non écrites, et ce, dès le premier semestre de la première année. Ce qu'on leur apporte aussi, c'est un accompagnement quasi personnalisé. À l'Université d'Artois, il me semble qu'ils sont très bien pris en charge. Il y a une proximité avec les enseignants et enseignants-chercheurs. On est là pour eux, on organise des permanences, on peut échanger avec eux en dehors des cours. On vient de faire le Café des Sciences qui a été un succès lors de la Fête de la Science. Il y avait une centaine de personnes, on a organisé donc Café des Sciences, petit déjeuner gratuit. On organise le Ciné-Sport Club. Donc on fait des choses vraiment pour que les étudiants s'emparent aussi de leur temps de formation universitaire, qui est un temps finalement court, mais décisif.
Voilà, donc en région de France, il existe plusieurs universités. Il y a aussi des formations au sport, par exemple STAPS à Lille, ça vous parle ?
Oui, oui.
Comment vous voyez un petit peu le maillage, on va dire, territorial par rapport à ce qu'il faut savoir quand on veut faire des études de sport ?
Dans tous les cas, les plaquettes de formation sont obligatoirement conditionnées par un enseignement qui est pluridisciplinaire. Après, le contenu des enseignements diffère aussi en fonction des différentes forces des laboratoires de recherche qui sont impliquées au sein des UFR STAPS des différentes universités. Je peux parler de celle-ci, mais je connais moins les autres universités de la région, même si je les connais un peu, mais je ne voudrais pas parler à leur place. Et en fait, c'est aussi la recherche qui est produite dans les laboratoires qui sont adossés aux UFR qui permet finalement de fabriquer les enseignements en lien avec la recherche qui est menée ici localement, en lien avec la recherche disciplinaire qui est menée par les enseignants-chercheurs qui sont affiliés à l'établissement.
Donc là, on a parlé des doctorants, on a parlé un peu des étudiants, mais est-ce que ces étudiants-là vous apportent aussi des idées? Est-ce qu'ils partagent vos réflexions à un moment donné? Est-ce qu'ils ont peut-être des connaissances pratiques, des connaissances de la vie quotidienne qui pourraient alimenter vos analyses?
Alors, c'est une question un peu délicate parce qu'encore une fois, tout ça dépend de l'objet de recherche travaillé et de la façon dont on le travaille. Il est possible que dans le cadre d'une recherche, pour je ne sais quel sujet, on en vienne à solliciter des étudiants. Voilà, pour mieux comprendre un phénomène. Supposons qu'on décide, par exemple, d'étudier la carrière d'un étudiant en STAPS, qu'on veuille savoir comment se passe c'est la phase de formation, puis la phase de professionnalisation, l'entrée dans le monde pro, et puis sa carrière ensuite. Bon, il est possible qu'on vienne chercher, solliciter les étudiants eux-mêmes. Après, le format enseignement, et notamment le format TD, travaux dirigés, donc on n'est plus sur des amphis de 200-300 personnes, mais là on est plutôt sur des groupes restreints de 30-40 personnes, est propice aux échanges avec les étudiants. On discute des enseignements et des connaissances. On essaie de les faire réfléchir sur des sujets précis, parfois des sujets qui ne font pas consensus. On essaye, c'est ce que disait Stanislas tout à l'heure, vraiment dans cette logique systématique de développer l'esprit critique. Et ça passe nécessairement par une mise en perspective, par l'échange, par la discussion et le débat.
Voilà, donc dans cette université d'Artois, cette formation au sport, mais aussi tout ce qu'il y a à côté, que le sport nécessite comme connaissances, compétences, et aussi la relation humaine, on n'en a pas trop parlé, quoique un peu quand même. On peut dire aussi qu'une université, c'est une micro-société avec des partages, avec des rencontres.
Ouais, absolument. Après, et c'est essentiel que ça fonctionne comme ça, parce que fondamentalement, nous, en tant que chercheurs, je vous le disais tout à l'heure, nous produisons des savoirs scientifiques, et à mon sens, ces savoirs scientifiques n'ont de sens que s'ils sont partagés. Et l'enseignement est un média de partage des connaissances qu'on produit. C'est essentiel. Donc d'échange, de partage, de débat. L'université doit servir à ça, surtout si on est vraiment dans cet objectif de développer l'esprit critique, d'épanouissement intellectuel. Donc voilà, tout ça est essentiel.